Grande Tchatche, le Ravi, Radio Grenouille.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Grande Tchatche, le Ravi en partenariat avec Radio Grenouille. Aujourd'hui avec nous Yves Morin, bonjour.
Bonjour.
Yves Morin, maire UMP de secteur dans les 6 et 8e arrondissements, fief historique du gaudinisme et président du groupe majoritaire au conseil municipal de Marseille. Avec moi pour présenter cette émission, Michel Guéraud, bonjour.
Bonjour.
Yves Morin, une tradition dans cette émission, c'est le portrait de l'invité et c'est Michel Guéraud qui s'y colle.
Aïe aïe aïe.
C'est parti. Jean-Claude Gaudin a mis fin au vrai-faux suspense sur sa candidature. Le sénateur-maire UMP de Marseille postule pour un 4e mandat. Face à lui, en première ligne, Patrick Mennucci, le truculent opposant de toujours. C'est du lourd et ça va saigner. Dans cette campagne de brutes, politique bien entendu, le Ravi, toujours soucieux d'apaiser le débat public, se devait d'inviter un homme capable d'emballer, à la veille de Noël, le plus vif des propos dans un paquet cadeau aux couleurs sucrées, je l'ai dit. Qui de mieux qu'Yves Morin, porte-parole de Gaudin en 2008 et pour l'ultime bataille en 2014. Le microcosme local et les journalistes parisiens sont unanimes. Vous êtes le nouveau dauphin du vieux capitaine. Un signe ne trompe pas. En septembre, il vous a sacré à Bagatelle, maire des 6e et 8e arrondissements dans les beaux quartiers marseillais où l'épopée gaudiniste a débuté. Comme Flipper le Dauphin, vous êtes un virtuose du dévouement. De Gaudin, vous dites sans détour, en politique, il est mon maître, dans la vie, il est mon ami. Comme lui, la politique est votre passion. Adolescent, pour vous punir, votre père vous a un jour interdit de regarder à la télé les débats à l'Assemblée nationale. Né en 70 à Aix, où vous avez plus tard étudié le droit, avant d'y rejoindre un cabinet d'avocats, votre engagement s'épanouit dès le lycée au Centre des démocrates sociaux. En 89, à 19 ans, vous figurez déjà sur une liste Gaudin dans le 6-8. À 25 ans, vous obtenez votre premier mandat sous l'étiquette UDF et devenez adjoint au maire d'arrondissement. Vous siégez en mairie centrale depuis 2001 et vos 31 ans. Vous y présidez désormais le groupe UMP. Beaucoup vous prêtent à 43 ans, aujourd'hui un avenir radieux. Si Jean-Claude l'emporte, il pourrait vous nommer premier adjoint. Et si l'envie lui vient de préférer le Sénat, lorsque le cumul des mandats sera interdit en 2017, ce dont il se défend, ou s'il prend une retraite anticipée, scénario non officiel, vous seriez alors adoubé maire de Marseille. Bon, évidemment, c'est de la politique fiction. Et lorsqu'on se souvient du sort d'un pesé, le dauphin de Defer ou de Muselier, l'ex de Gaudin, vous devriez peut-être prendre peur. Flipper le dauphin, en fin de compte, c'est vraiment flippant.
Je m'aurais une réaction à ce portrait, à la sauce Ravi, bien sûr.
Super portrait, sans aucune erreur d'aucune sorte. Donc voilà, pas de problème. J'admets tout le portrait, Flipper le dauphin, ça me va aussi.
Alors Yves Morin, avant d'attaquer la politique locale, on va parler un petit peu du national. Vous êtes, comme je l'ai dit, élu UMP. Aujourd'hui, on a un gouvernement de gauche. Ça ne vous a pas échappé.
Ça n'échappe pas aux Français, surtout.
Avec un mode de gouvernement qui est ponctué de manifestations, on est loin du consensus national rêvé par les socialistes. Lors de la victoire, comment vous expliquez ce désamour ou ce mécontentement récurrent?
De façon très simple, il me semble que les Français n'ont pas choisi François Hollande, ils ont rejeté Nicolas Sarkozy. François Hollande est un président par défaut, qui avait déjà été le candidat des socialistes par défaut. Donc, pour le coup, lui, il a bénéficié de beaucoup d'heureux hasards successifs. Il n'était pas suffisamment bien préparé, son équipe non plus. Et il n'est pas au niveau, et c'est cela qui fait que les Français sont furieux, et notamment la politique fiscale qu'ils ne supportent plus.
Alors les reculades, il y en a eu beaucoup, celle du gouvernement, il y a l'abandon de la fiscalisation de l'épargne, il y a la suspension de l'écotaxe, on en a vu les dégâts ici à Arles, dans la région, et la surprenante remise à plat de la fiscalité du Premier ministre. Yves Morin, c'est quoi cette remise à plat d'après vous? Une simple habillage pour l'abandon de l'écotaxe, ou c'est quelque chose d'autre?
Oh, je crois que c'est un petit coup politique pour essayer de sortir héros de la nasse. Je pense qu'on se moque de nous. On nous a parlé de la pause fiscale, on nous a parlé de la récréation fiscale, on nous a parlé de l'égalité fiscale. Maintenant, on a la remise à plat. En réalité, c'est les Français qui sont à plat.
L'écotaxe, on a vu des manifestations à Arles, comme je le disais, violentes, un petit peu partout, en Bretagne également. Vous êtes pour la suspension?
Oui.
La suppression.
Bon, en tout cas, la suspension, c'est une bonne nouvelle. On peut pas. Il faut être un peu en politique, un peu cohérent. On peut pas dire on est contre, et après dire ah ben c'est pas bien que vous suspendiez. Ben, c'est déjà moins mal de suspendre que de maintenir. Après, la question de la fiscalité écologique méritera d'être revue un jour. Mmh. Évidemment.
L'écotaxe, là, l'UMP fait un peu de démagogie parce que c'est quand même un gouvernement UMP qui a mis en place ce système.
Exactement.
Alors pourquoi aujourd'hui critiquer quelque chose qui a été défendu par Nicolas Sarkozy?
C'est la taxe Borloo.
Exactement.
Fait.
Vous avez vu d'ailleurs que moi je n'ai pas fait de démagogie quand vous m'avez quand vous m'avez posé la question. J'ai bien dit que il faudra un jour revenir sur la fiscalité écologique. Je dis simplement que quand on a en face un gouvernement qui en 18 mois a augmenté de 60 milliards les prélèvements sur les Français, ça suffit. C'était pas le plan Borloo-Sarkozy de l'époque. C'était la fiscalité écologique, mais pas autre chose.
Donc vous dites l'écotaxe était un bon dispositif. Elle fait les frais de
exactement. Du déferlement, du tsunami fiscal que nous devons au duo Hollande et Roux.
Alors, déferlement de mécontentement. Pourtant, on n'a pas l'impression que la droite bénéficie un peu de ce mécontentement. On est loin d'imaginer la vague bleue. On imagine plus facilement une vague bleu marine pour les prochaines élections.
Je ne crois pas que nous aurons une vague bleu marine, mais par contre, vous avez raison de dire que l'UMP, la droite républicaine, ne profite pas, et en tout cas de mon point de vue, pas suffisamment, du mécontentement contre le gouvernement. Et c'est dû à une chose, c'est dû au fait que nos leaders nationaux ne pensent qu'à eux et pas à l'intérêt général. Il ferait mieux d'arrêter de se battre entre eux et de bâtir un programme d'alternance qui soit véritablement en phase avec ce que souhaitent les Français et qui soit courageux par rapport aux très lourds problèmes que doit affronter notre pays.
Mais justement, la bataille qui perdure au sein de l'UMP avec les primaires qui vont arriver relativement tard pour vous, ça va plomber un peu les échéances municipales ?
Ça crée quelques difficultés. C'est pour ça que nous nous concentrons sur Marseille et ne nous préoccupons pas des bagarres nationales.
Michel ?
Alors, autre dossier qui nous amène au local, hein, les rythmes scolaires. Là aussi, mobilisation. Il y a à nouveau un mot d'ordre de grève le 5 décembre, je crois, assez unanime au niveau des syndicats enseignants. Et là, Jean-Claude Gaudin, qui a fait des déclarations un peu tonitruantes, même il a un peu rétro-pédalé. C'est-à-dire qu'au départ, il a dit « je n'appliquerai jamais cette réforme, même si elle passe ». Puis maintenant, si je comprends bien, il dit bah, si elle passe, il faudra bien l'appliquer.
Un coût de 27 millions d'euros hein, pour Marseille.
Oui, c'est ça. Bon, cette réforme, nous sommes contre. Elle ne fonctionne pas partout où elle est appliquée. J'ai rencontré moi-même, dans le cadre des nouvelles fonctions que j'exerce à la mairie des 6e et 8e arrondissement, que vous avez rappelé, beaucoup de parents qui, croyez-moi, comme certains enseignants, ne sont pas du tout de droite et qui disent c'est absolument inapplicable. Nous ne voulons pas de cette réforme. Donc, elle est mauvaise sur le fond. Elle est rejetée par tout le monde. Et en plus, pour la ville de Marseille, est extrêmement coûteuse et sur le plan pratique, très très difficile à mettre en place. Donc c'est vrai que nous la refusons et nous espérons bien que le gouvernement, peut-être que M. Peillon sera d'ici là plus ministre de l'Éducation nationale d'ailleurs, reviendra sur cette réforme que la quasi-totalité des maires de France rejette. C'est pas que Jean-Claude Gaudin ou c'est pas que les maires de droite. Et là où elle a été appliquée pour des raisons politiques, à Paris par exemple, eh bien ça se transforme en véritable fiasco et c'est un boulet pour Mme Hidalgo.
Juste rappeler, comme l'écotaxe, que les rythmes scolaires, c'est un rapport commandé par le précédent gouvernement. C'est encore une fois d'incohérence.
Pas
de
du
la
tout,
droite.
Parce qu'il vous a pas échappé que malgré le rapport, on ne l'avait pas fait.
Michel ?
Oui, je reviens sur ces rythmes scolaires. À Toulon ou à Avignon, deux villes UMP de la région, où les maires sont opposés aussi à cette réforme, pourtant les services travaillent, enfin, ils consultent, ils préparent. C'est dans 6 mois la rentrée scolaire. À Marseille, rassurez-nous, les services préparent cette application parce que ça implique beaucoup de personnel, beaucoup de changements, des budgets.
Mais il ne vous aura certainement pas échappé que les villes de Toulon ou d'Avignon comptent beaucoup moins d'habitants que Marseille, que ça représente à peine un ou deux arrondissements de Marseille et que les problématiques de mise en œuvre n'ont strictement rien à voir.
Mais d'autant plus, il faut anticiper.
Comment on va faire pour recruter les vacataires qui vont devoir travailler une heure ou une heure et demie par jour payés au lance-pierre ? Comment on va faire ? C'est la raison pour laquelle à Paris ou ailleurs, dans d'autres villes où ça a été mis en place, les parents se plaignent parce qu'ils disent en réalité, on fait de la garderie avec un surveillant dans la cour qui regarde les enfants qui n'ont absolument aucune activité d'éveil. C'est n'importe quoi. Pas moi qui le dis, c'est les parents.
J'insiste, même si il est légitime d'avoir une hostilité politique à ce projet, ce qui ne serait pas prudent
de préparer
pragmatiquement la rentrée qui vient devant
nous. Nous luttons pour que cette réforme ne soit pas appliquée.
Le but, c'était quand même, de cette réforme, le but premier, c'était adapter les rythmes scolaires au rythme biologique de l'enfant.
Mais,
donc c'est plutôt positif.
Mais si vous me dites, est-ce que M. Morin, vous êtes pour que, comme en Angleterre ou en Allemagne, les enfants travaillent de 8h30 à midi, prennent une pause déjeuner et l'après-midi consacrent 3 heures à des activités sportives ou culturelles, je vous dis oui, je suis pour ça. Pas pour qu'on remplace des activités scolaires par un concours de jambes croisées dans la cour.
Alors encore une question sur le niveau national et sur le climat ambiant. On a vu le président de la République siffler en marge de la cérémonie du 11 novembre. On note des discours alimentés par certains leaders d'ailleurs de vos partis, des discours qu'on pourrait qualifier de populistes. Beaucoup de militants UMP également qui affirment que Hollande n'est pas leur président. Ils lui font un procès quasiment en illégitimité républicaine. Qu'est-ce que vous répondez d'abord à ces militants UMP qui disent « Non, Hollande n'est pas notre président ».
Je réponds que le procès en illégitimité républicaine, il a été fait contre Nicolas Sarkozy d'abord, par le Parti Socialiste, par le mouvement des jeunes socialistes qui n'a pas hésité à placarder des affiches honteuses, scandaleuses, insultantes, par une grande partie de la presse nationale qui a fait aussi ce procès en illégitimité à Nicolas Sarkozy. Alors ensuite, il ne faut pas s'étonner qu'on récolte les graines qu'on a semées.
Siffler le président de la République, ce n'est pas quelque chose qui vous choque ?
Ce n'est pas quelque chose qui me choque.
Lors d'une cérémonie du 11 novembre.
Ce n'est pas quelque chose qui me choque fondamentalement. J'ai entendu, on n'a pas sifflé les morts de la guerre de 14-18, on a sifflé le président de la République. Je n'ai pas entendu que les Français ou les journalistes bien pensants de la presse parisienne étaient choqués quand on sifflait Nicolas Sarkozy.
La ministre de la Justice qualifiée de singe.
Ça, c'est honteux.
À l'Assemblée nationale, tout le monde se lève pour l'applaudir, sauf l'UMP.
Ils auraient dû.
Vous auriez été député.
J'espère que j'en aurais eu le courage. C'est facile de dire les choses quand on n'y est pas, donc je ne vais pas me glorifier.
Il faut un courage
pour
applaudir une ministre de la République qui se fait qualifier de singe.
Visiblement, il faut un courage pour applaudir un adversaire politique quand on est trop pris dans ses contingences partisanes. Mais en tout cas, en plus, Mme Taubira est une femme talentueuse. Je ne partage pas ses opinions politiques, je ne partage pas la réforme qu'elle a faite sur le mariage pour tous. Mais j'avais remarqué au moment des présidentielles de 2002 son talent oratoire, Sa culture livresque. Mais moi, je suis très, très sensible à l'éloquence. Elle est très éloquente. Donc, c'est une femme talentueuse. Et les propos racistes à l'égard de n'importe quel homme ou femme politique sont inadmissibles, doivent être non seulement condamnés, mais combattus. La politique ne doit pas tomber dans ces caniveaux-là.
Vous trouvez que votre parti se décomplexe de plus en plus ?
Non, mais moi, je ne suis pas complexé. Hein. Et sur un certain nombre
sur certains sujets,
et
en tout cas.
Et sur un certain nombre de sujets, je dirais les choses très clairement, mais ça n'a strictement rien à voir avec des insultes racistes. Ça, c'est condamnable.
Michel ?
Et ça doit être condamné, y compris judiciairement.
On vient en local, on pourra revenir sur des enjeux nationaux, évidemment, à travers nos questions locales. Mais bon, donc c'est parti, on vient de le dire. C'est-à-dire que Jean-Claude Gaudin a déclaré sa candidature. On a l'impression que ça a un peu cafouillé. Il était sur France Inter il y a encore quelques jours. Il disait il ne faut pas être en campagne municipale permanente. Et finalement, beaucoup plus tôt que la fois dernière, le voilà en campagne. Qu'est-ce qui explique cette accélération qui... ce qui ressemble à une forme d'hésitation à y aller.
Non, il n'y a pas eu d'accélération du tout. Je suis bien placé pour le savoir, puisque tous les journalistes parisiens et locaux, depuis des mois, me demandent la décision, quand, comme le French Cancan. Eh bien, je leur ai tous dit, ce sera entre le 15 et le 30 novembre. Je ne me suis pas trompé, c'était entre le 15 et le 30 novembre. Donc, il n'y a eu aucune accélération d'aucune sorte. Le maire a respecté le tempo qu'il s'était lui-même fixé. En revanche, c'est vrai qu'il n'a pas souhaité, et nous n'avons pas voulu, l'équipe qui l'entoure, attendre le mois de janvier, parce que nous pensons que la dernière fois, au moment des municipales de 2008, nous étions partis en janvier et que c'était trop tard. Nous avons voulu partir ni trop tôt, ni trop tard. À temps, je crois.
Alors Patrick Minucci, qui présentait juste le lendemain de cette déclaration un premier document sur le bilan des 18 années Gaudin, a déclaré à la presse.
Rassurez-moi, il n'a pas dit trop de bien de Jean-Claude Gaudin.
Non, ça aurait été étonnant.
Ça va.
On rassure les auditeurs. A dit que c'est Morène et Bertrand qui ont poussé Jean-Claude Gaudin à y aller. Il n'avait pas envie. À y aller plus vite.
Non, comme je viens de vous le dire, le maire, au contraire, était presque disposé lorsqu'il a pris dans sa tête sa décision, c'est-à-dire aux alentours du début du mois de juillet, de faire connaître sa décision immédiatement. Vous savez, la presse avait parlé après le budget, aux alentours du 14 juillet. Donc il était tout prêt. On ne l'a pas poussé à accélérer. On a au contraire plutôt dit qu'il fallait attendre l'automne pour laisser se terminer les primaires socialistes. Donc il n'y a eu ni décélération, ni accélération, mais un tempo qui a été respecté. Patrick Mennucci prend, comme d'habitude, ses rêves pour des réalités.
Est-ce que les deux derniers sondages qui le donnent vainqueur, qui donnent l'adversaire de Jean-Claude Gaudin vainqueur, ont pas eu un effet accélérateur?
Non, mais vous savez, les sondages, ils donnent à Marseille une idée, mais vous savez aussi bien que moi qu'avec un vote par secteur, les choses sont beaucoup plus complexes que ce que ne le disent les sondages. Tous les sondages, depuis le début de l'année, ils disent quoi? Ils disent que Patrick Mennucci n'a aucune chance de gagner contre Jean-Claude Gaudin en duel. Il ne peut espérer gagner qu'avec le maintien du Front National. Et même avec le Front National en triangulaire, tous les sondages, ils nous donnent entre 1 point de retard et 2 points d'avance. Donc avec ça, on n'a pas tellement lieu d'être inquiet.
Justement, le Front National, c'est un composant récurrent de la classe politique locale. On l'a connu très très fort, Jean-Claude Gaudin l'a rappelé, à 30%. Aujourd'hui, il est là, il est faiseur de roi, selon vous?
Non, je ne crois pas. Je crois que la meilleure référence, c'est l'élection municipale de 1995, où le Front National fait sur l'ensemble de la ville 22%. Ce que lui donnent les sondages aujourd'hui, eh bien en 1995, avec un Front National à 22%, nous avons gagné 5 secteurs sur 8. Si nous faisons la même chose cette fois-ci, vous pourrez me réinviter, j'aurai un sourire encore plus grand qu'aujourd'hui.
Alors là, je sens que vous allez faire un bond au plafond, mais je vais
rappeler... Non, mais je me tiens, alors prévenez-moi.
Tenez-vous, mais la campagne ne fait que démarrer, cet argument va circuler et une fois de plus. Jean-Claude Gaudin donc, fait partie de ces élus responsables politiques qui ont... dans leur histoire politique, fait une alliance avec le Front National.
C'est exact.
Aujourd'hui, il dit que ça ne sera plus jamais le cas. C'est sûr.
Ben, Jean-Claude Gaudin, je ne vais pas réexpliquer comment les choses se sont passées en 1986, mais je vais réexpliquer qu'en 1992, alors que le Parti Socialiste soutenait Bernard Tapie et comptait sur le Front National Jean-Marie Le Pen en personne pour faire élire Tapie président de la région, ben Gaudin, il a battu et Tapie et Le Pen et il n'a pas fait d'alliance avec le Front National, pas plus en 92 à la région qu'en 95 à la ville de Marseille où il y avait des élus Front National. Donc les choses sont claires à cet égard. Pas d'alliance avec le Front National, mais en revanche, rien ne nous interdit de parler aux électeurs du Front National et de ne pas les stigmatiser sur un plan moral.
Qu'est-ce que vous entendez par là? Rien ne nous interdit de parler aux électeurs du Front National.
Ce qui me déplaît dans le débat politique, c'est la stigmatisation morale du Front National. Voilà, moi ça me déplaît.
Pourquoi vous trouvez qu'ils ont des valeurs morales qui sont compatibles avec les vôtres?
Je considère que c'est un parti républicain et qu'il n'y a pas lieu de stigmatiser les électeurs qui choisissent de voter pour le Front National.
Donc vous ne considérez pas le Front National comme un parti d'extrême droite?
Non, je ne considère pas le Front National comme un parti d'extrême droite. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui l'extrême droite, l'extrême gauche? J'en sais rien. Moi, je me focalise sur les idées. Le Front National a des idées qui ne me conviennent pas, des solutions qui me paraissent mauvaises pour la France et pour ma ville, et en conséquence j'essaie de le démontrer pour convaincre les électeurs qui envisagent de choisir le Front National de voter plutôt pour nous.
Alors je vais vous lire une phrase et vous allez me dire si ça vous convient. L'islam n'est pas une religion comme une autre mais une doctrine politico-religieuse qui vise un objectif, conquérir, pour régner sur les territoires et sur les âmes. Vous voyez quel est l'auteur?
Je ne sais pas qui est l'auteur, mais comme je n'ai pas de connaissances particulières en histoire des religions, je me garderai bien de me prononcer. D'ailleurs, mêler politique et religion, ça ne me paraît jamais être une bonne chose.
Bon, c'est Guillaume de Thieulois et c'est l'assistant parlementaire de Jean-Claude Gaudin au Sénat qui édite un journal où ce genre de positions sont régulièrement mises en avant. Est-ce que Jean-Claude Gaudin a vraiment rompu avec... avec ces gens qui pensent que l'extrême droite est tout à fait fréquentable?
Mais Jean-Claude Gaudin n'a jamais eu à rompre parce qu'il n'a jamais fricoté avec ces gens. Jean-Claude Gaudin...
En 86, il aura mis le pied des... Il les a installés dans la région.
Laissez-moi finir. Non, il ne les a pas installés
dans la région. Si, il les a installés.
Non, celui qui les a installés, c'est François Mitterrand, quand il a joué sur le Front National pour se faire réélire à partir de l'histoire de Dreux. Et aujourd'hui, le Parti Socialiste espère faire exactement la même chose en évitant une vague bleue, en faisant monter le Front National. Donc voilà pour la réalité. Ensuite, en 1986, le Front National, c'est des gens que nous connaissons. C'est M. Domenech qui est le rédacteur en chef du Méridional. C'est Maître Jean Roussel.
Jean-Claude Gaudin, d'ailleurs.
Exactement. C'est Maître Jean Roussel qui est avocat à Marseille. Et donc, c'est des gens qui se connaissent depuis longtemps. Et donc, l'alliance avec le Front National s'est faite. On n'a d'ailleurs jamais reproché en 6 ans, 86-92, aucune décision marquée du sceau de l'infamie ou de l'indélicatesse ou du racisme.
Parce que c'est la région, Yves Morin.
Oui.
les implications au niveau local sont moins apparentes, sont moins importantes.
Oui, je ne sais pas. Oui.
Sur le fond, vous pensez que l'islam est une religion qui pose problème, comme l'affirme l'assistant parlementaire de Jean-Claude Godin?
Je vous ai déjà dit que n'étant pas spécialiste en histoire des religions, je me garderais bien de rentrer dans ce genre de discours.
D'accord.
Je ne connais pas suffisamment l'islam, je ne l'ai pas étudié, donc je ne vais pas me prononcer.
Et lorsque Jean-Claude Godin parlait d'une horde de musulmans déferlant sur la Canebière suite à un match de foot, est-ce que là vous pensez que c'est ce type de déclaration était une erreur et qu'il ne faut pas les reproduire
Je crois que Jean-Claude Godin a dit lui-même qu'il n'aurait pas dû s'exprimer de cette façon-là, mais je rajoute immédiatement que je vois ce qui s'est passé le soir de la victoire de l'Algérie, peu m'importe que les gens soient français, étrangers, musulmans, mais ce que je ne supporte pas, c'est qu'au prétexte d'un match de foot, ils viennent casser sur le Vieux-Port et s'en prendre aux forces de police. Voilà, ça c'est inadmissible.
Alors, vous avez dit tout à l'heure, on va s'adresser, il n'est pas interdit en tout cas de s'adresser aux électeurs du Front National, il n'y aura pas d'alliance, Jean-Claude Godin l'a rappelé encore une fois. Est-ce que tous vos amis politiques sont de cet avis? Comme vous l'avez rappelé, il va y avoir des triangulaires, ça va être difficile. Certains vont perdre, il n'y a pas une tentation de... dialogue
choses... Non, il n'y aura aucune difficulté. Les choses ont été tranchées très clairement d'ailleurs par le parti au niveau national. Et puis vous savez, si ce n'était pas pour des raisons morales, ce serait au moins pour des raisons d'intérêt. Pourquoi vous voulez vous allier avec quelqu'un qui n'a qu'une envie, c'est de vous prendre votre place? Il faudrait être débile.
Michel?
Parce qu'il pèse lourd politiquement et que peut-être il faut parfois faire des compromis pour arriver à ses objectifs.
Mais en plus, même sur le plan strictement électoral, j'allais dire bêtement électoral, vous alliez avec le Front National, ce que vous gagnez d'un côté, vous le perdez de l'autre. Ça sert à rien.
Une campagne d'idées, avez-vous dit, une campagne d'idées contre les tenants du Marseille bashing. Ça, c'est votre expression. Ça veut dire quoi concrètement, ça?
Ben, c'est-à-dire que je crois que l'équipe, que Patrick Mennucci et son équipe font une erreur. En tout cas, c'est mon avis. Qu'ils soient pas d'accord sur tout, c'est normal. Qu'ils critiquent le bilan, c'est tout à fait admissible. Qu'ils mettent en avant un projet qui soit différent du nôtre, tant mieux. Mais je ne crois pas qu'il soit sérieux de prétendre que Marseille n'a pas changé, que Marseille n'a pas grandi depuis 1995. Ça, je crois qu'aucun Marseillais ne rentrera dans ce schéma-là. Et d'ailleurs, nous avions fait nous-mêmes cette erreur il y a quelques années au moment des élections régionales en faisant campagne sur le bilan zéro de Michel Vauzel et nous avions été renvoyés dans nos buts. Mais je crois que Patrick Mennucci est en train de faire la même erreur.
Quand il parle d'immobilisme, vous dites non, après 19 ans, on a quand même un peu bougé.
Et oui, on a beaucoup bougé, surtout on a beaucoup fait bouger cette ville. Il y a de nombreux exemples et le tenant de l'immobilisme, c'est Patrick Mennucci. Parce que sur un certain nombre de projets, celui qui s'y est opposé pour des raisons politiciennes, par exemple les terrasses du port, par exemple le tramway jusqu'au Catalan, par exemple l'hôtel intercontinental, pour quelques petits intérêts politiciens de quartier, c'est Patrick Mennucci. Le vrai immobile, c'est Patrick Mennucci.
Michel?
Alors, il y a des commentaires se font aussi sur l'âge du capitaine, hein, 74 ans, 80 donc à la fin du nouveau mandat, s'il arrive à l'obtenir. Est-ce que c'est pas beaucoup, et surtout après déjà 18 ans d'exercice du pouvoir?
Ce qui compte, c'est le bilan, le projet et l'envie. Ou alors, il faut dire, à partir de 70 ans, vous mettez les vieux au rancard. Je connais dans cette ville un certain nombre d'hommes de plus de 70 ans ou même de plus de 75 ans qui, dans le domaine de l'entreprise, de la médecine ou de la justice, continuent à mener de très brillantes carrières. Donc je ne vois pas pourquoi ce serait différent pour la politique. J'ai d'ailleurs pas entendu, lorsque Gaston Defferre avait sollicité un dernier mandat, qu'on le trouvait trop vieux. Il avait à peu près le même âge que Jean-Claude Godin.
Alors on va dire qu'aujourd'hui, Jean-Claude Godin, c'est le new Gaston Defferre?
Non, il ne faut pas faire toujours référence au passé. Je crois que Jean-Claude Godin était aujourd'hui le mieux placé dans notre famille politique pour l'emporter contre le candidat de gauche, quel qu'il soit. Nous avons un certain nombre de projets que nous voulons continuer à développer. Nous craignons que l'équipe socialiste autour de Patrick Mennucci fasse de mauvais choix pour notre ville et nous essayons de défendre les idées qui sont les nôtres pour pouvoir les mettre en pratique. C'est la politique, tout simplement.
Alors, parmi les amabilités qui commencent à circuler, c'est normal, c'est exercice du genre, quelqu'un a dit, et pourtant, je vais jouer au jeu des devinettes aujourd'hui, hein. Il n'est jamais à la mairie, voilà, il n'est jamais à la mairie, Jean-Claude Godin n'est jamais à la mairie. Et c'est Renaud Muselier, son ancien premier adjoint, Dauphin, qui sort ça dans un quotidien de référence dit du soir, Le Monde.
Bon, ben Renaud a tort, il est bien placé que pour savoir que Jean-Claude Gaudin est souvent à la mairie. J'ai d'ailleurs cru comprendre que Renaud trouvait qu'il était trop à la mairie et qu'il voulait trop y rester. Renaud a eu un certain nombre de bonnes idées pour Marseille et nous lui devons un certain nombre de réalisations, Euroméditerranée, le métro et le tramway. Quant au rythme de Jean-Claude Gaudin, je ne vais pas répondre à Renaud parce que c'est mon ami, mais je vais répondre à Patrick Menucci qui dit il ne travaille pas assez, il dort. Je pense que si Patrick Menucci tenait le rythme de Jean-Claude Gaudin pendant une semaine, on le ramasserait à la petite cuillère, ou plutôt à la grosse cuillère.
Bon, ce qui est vrai, c'est qu'on connaît l'agenda, vous le connaissez mieux que moi, de Jean-Claude Gaudin. Il est au Sénat, il passe plusieurs journées à Paris chaque semaine. Il a aussi, il a bien le droit, sa maison dans le Var où il passe parfois ses week-ends.
Si ça vous intéresse tant que ça, l'agenda de Jean-Claude Gaudin, c'est l'agenda type de Jean-Claude Gaudin, c'est qu'il arrive à la mairie le lundi matin à 8h. Il y reste jusqu'en fin de journée, il part à Paris, il rentre le mercredi soir, il travaille jusqu'au samedi, il va dans sa maison du Var le samedi soir et souvent il rentre pour une manifestation le dimanche midi. Donc il s'occupe beaucoup plus de Marseille que Patrick Menucci qui passe 3 jours par semaine à Paris, parce que comme lui il est parlementaire que depuis un an et demi, il goûte aux délices de la vie parisienne. Et je rajoute que contrairement à Patrick Menucci, Jean-Claude Gaudin n'a jamais pris l'engagement écrit de ne pas cumuler un mandat local avec un mandat parlementaire. Alors que Patrick Menucci, au moment des législatives de 2012, a signé un papier demandé par le Parti Socialiste pour dire « je ne cumulerai pas ». Eh bien, il cumule joyeusement.
Bon, il reste quand même 2 jours, sachant que tout est fermé le samedi. Gérer une ville, la deuxième ville de France, quand tout est fermé, c'est compliqué.
Hein, pourquoi tout est fermé le samedi? Vous croyez que dans la vie politique, il n'y a pas de manifestation le samedi?
Ah oui, mais pour couper les rubans.
Vous croyez qu'on ne travaille pas dans la vie politique le samedi? Venez passer un samedi avec moi, vous allez voir combien je reçois de personnes à Bagatelle le samedi matin.
Pour couper les rubans, Yves Morel.
Pour recevoir des gens, pour aller voir des associations, pour aller voir des associations sportives, pour aller voir les comités d'intérêt de quartier.
Et même des journalistes parfois. Est-ce qu'on peut gérer la deuxième ville de France en étant à mi-temps ailleurs?
Mais où à mi-temps? Vous croyez que quand vous êtes à Paris, au Sénat, que vous allez voir le ministre de l'équipement, que vous allez voir le ministre de l'écologie, que vous allez voir le ministre des finances.
Bah, il ne doit pas beaucoup les voir en ce moment, parce que c'est l'opposition qui est au pouvoir.
Hein, pardon ?
Il ne doit pas beaucoup les voir en ce moment, puisque c'est l'opposition qui est au pouvoir.
Il les a vus, notamment quand M. Hérault a supplié M. Gaudin de l'aider à faire la métropole, sans quoi il n'y serait pas arrivé.
On en reparlera. Michel ?
Alors vous êtes un jeune Quadra, vous incarnez une nouvelle génération de
jeune,
politique.
Jeune, je ne sais pas, mais Quadra, c'est vrai.
Quadra, putain, vous êtes plus proche des 40
ans que des
50 ans.
Je
ne
voulais pas vous faire remarquer
ans.
Que vous aviez un petit pléonasme, je ne me serais pas permis.
Est-ce que vous ne pensez pas quand même que ce type d'homme politique qu'incarne Jean-Claude Gaudin, donc avec cette multiplicité de mandats, il les a tous eus, il en a donc plusieurs à la fois, date un peu? Est-ce qu'il ne faudrait pas passer à d'autres pratiques? Et est-ce qu'il ne faudrait pas un maire qui incarne ce renouveau?
Je crois que la passion exclusive d'un responsable politique, à la fois pour la vie politique, pour le service public et pour sa ville, c'est plutôt un exemple à suivre. Et à cet égard, les Marseillais reconnaissent à Jean-Claude Gaudin et sa proximité, et sa disponibilité, et son honnêteté. Et d'ailleurs, il ne vous a pas échappé que dans le sondage du Parisien que vous me citiez tout à l'heure, vous me citiez les intentions de vote, mais moi je vais vous citer autre chose. Quand on demande aux Marseillais, est-ce que vous appréciez Jean-Claude Gaudin, ils disent oui à 52%. Quand on pose la question sur Patrick Menucci, c'est que
38%. La grande tchatche, le ravi, Radio Grenouille.
La grande chat, le ravi, Radio Grenouille, avec nous aujourd'hui Yves Morel, futur porte-parole de Jean-Claude Gaudin, c'est ça?
Oui, c'est possible. Ça, on va voir la mise en place de l'équipe de campagne.
Alors tout à l'heure, Michel Guéraud a évoqué les petites piques, les petites phrases de Renaud Muselier. On ne sait pas ce qu'il va faire, ce qu'il va dire ou ne pas dire durant cette campagne. On a vu que Guy Tessier avait fait un communiqué. Il a choisi de ne pas se présenter contre Jean-Claude Gaudin, je cite, mais d'établir un pacte de gouvernance. C'est finalement dans la coalition de la droite que vous pouvez y arriver?
Oui, Jean-Claude Gaudin l'a expliqué, il a beaucoup hésité à se représenter. Il voulait en tout cas vérifier au préalable que l'ensemble de la famille était réuni autour de lui. C'est le cas aujourd'hui. Ça n'a pas été si difficile que cela d'ailleurs, parce que dans notre...
On avait dit en début d'émission, pas de langue de bois.
Non, mais je vais vous le dire, pas de langue de bois. Dans notre camp, à Marseille, bien sûr qu'il peut y avoir des divergences d'objectifs. Il peut y avoir même des ambitions concurrentes. On est plus amis avec les uns qu'avec les autres, bien sûr. Mais il n'y a pas de haine entre nous. Voilà, il n'y a pas de haine entre nous, alors que le Parti Socialiste est perclu de haine recuite qui remonte à des temps immémoriaux, un peu comme dans ce village corse où on est fâché, mais on ne sait même plus pourquoi.
Alors ça, on ne va pas vous contredire. Je cite un propos qui est récent, qui date d'avril 2013. Bon, alors en politique, ça va vite, mais quand même, avril 2013. Tout dysfonctionne dans cette ville. On assiste malheureusement à la fin du règne de Jean-Claude Gaudin, qui n'a jamais été un homme d'entreprise. Il est assis dans son fauteuil et ne veut pas en bouger. La seule force qui le meut, c'est sa volonté de se maintenir au pouvoir. Il est temps qu'il passe la main. Cette ville s'enfonce, etc. C'est long, il y a 10 lignes derrière comme ça. Et c'est Guy Tessier à valeur actuelle. Et maintenant, Guy Tessier est donc envisagé pour, avec Jean-Claude Gaudin, peut-être, Guy Tessier serait à MPM, à la présidence de
en
MPM.
En cas de victoire.
En cas de victoire.
Il est exact.
C'est possible en politique? Bon, c'est la politique, d'accord, mais comment c'est possible de passer de tels propos à une alliance
En politique, tout est possible. Quand vous voyez Eugène Caselli qui dit le lundi, Menucci sera jamais maire de Marseille, et qui dit le vendredi, il faut soutenir Patrick Menucci parce que c'est le meilleur, on a bien la preuve que tout est possible. Pour en revenir à Guy Tessier, Guy Tessier a effectivement critiqué un certain nombre de politiques qui avaient été menées par la ville de Marseille.
Il critique l'homme, et plus souvent.
Non, mais là, on était en avril 2013, on était dans le cadre de la pré-campagne. Guy Tessier espérait pouvoir être le candidat de la majorité municipale à la place de Jean-Claude Gaudin, et donc il jouait son va-tout, et on ne peut pas le lui reprocher. Mais sur le fond, ce qui est plus intéressant, c'est les critiques dont je ne disconviens pas, qu'il a apportées, notamment sur certaines problématiques en termes de transport, de propreté ou de sécurité. Et bien avant que Jean-Claude Gaudin se décide à être candidat, on a pris en compte un certain nombre de propositions de Guy Tessier, notamment sur la sécurité, création de la vidéoprotection, augmentation des effectifs de la police municipale. On a travaillé aussi sur des propositions en termes de propreté. Et donc, Guy Tessier, aujourd'hui, dit si on met en place un certain nombre des propositions que j'ai soumise, eh bien, je suis d'accord pour faire équipe. Et puis, vous savez, Guy Tessier, il n'a jamais joué contre son camp. Il n'a jamais franchi la ligne jaune. Il a toujours voté au conseil municipal avec la majorité de Jean-Claude Gaudin. Donc, il n'y a pas de problème majeur à se réunir.
En même temps,
moi, personnellement, je n'ai jamais cru que Guy Tessier se présenterait contre Jean-Claude Gaudin. C'est mal connaître les qualités personnelles de Guy Tessier que de penser qu'il pourrait faire ce genre de choses.
Oui, alors venons-en à une question de fond. Je recite Guy Tessier. Alors, il dit « Marseille a été simplement maquillée pour ressembler à une carte postale. On lui redonne une apparence de séduction avec l'opération Marseille, capitale européenne de la culture, en endettant au passage jusqu'aux enfants de mes petits-enfants. » Alors, l'endettement, c'est une des critiques de Menucci aujourd'hui.
Oui. 1,8 milliard d'euros.
Oui, alors sur l'endettement, c'est très simple. L'endettement de la ville de Marseille, parlons précisément de la commune de Marseille, de la ville de Marseille, au budget de la ville de Marseille, n'a pas augmenté en euros constants depuis 1995. Au contraire, par habitant, elle a même légèrement diminué, hein, pas beaucoup. Elle a même légèrement diminué parce qu'en même temps, le nombre d'habitants a augmenté. Et pendant cette période-là, nous avons investi 250 millions d'euros par an. Et si on peut faire de la technique, une minute, c'est un peu...
Mais quand vous posez
une question, il faut faire un peu de technique.
Mais pour le contribuable, simplement, lui, ça lui fait quand même 2300 euros
d'endettement. Mais le choix, mais il les avait déjà en 1995, donc nous ne l'avons pas augmenté. Le choix que nous avons en 1995, il est simple. La ville est très endettée. Philippe Saint-Marco, qui était adjoint de Gaston Defferre, l'a très bien expliqué à une ou deux reprises. La ville est très endettée. Qu'est-ce qu'on fait? On la désendette et on n'investit plus, mais elle s'enfonce dans la misère. Ou alors, on décide de maintenir la dette en investissant. C'était un choix de développement économique que nous avons fait et nous avons bien fait de le faire.
Michel?
Oui. Marseille, dette par habitant en euros, 2103 euros par habitant, là où Bordeaux est à 767, Lyon à 706.
Mais évidemment! Évidemment, parce que Bordeaux et Lyon sont des villes beaucoup plus riches que Marseille, de façon historique.
En même temps, il y a le choix des investissements qui est un peu douteux.
Alors on peut discuter de savoir s'il faut faire ceci ou cela. Là, c'est autre chose. Mais sur le choix de maintenir la dette qui existait déjà à ce montant-là, vous pouvez faire les comparaisons avec Bordeaux en 1995, c'est la même chose. Donc sur le choix de maintenir la dette et d'investir, c'est pas contestable. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les agences de notation nous donnent d'excellentes notes, parce qu'elles prennent en compte le fait que les finances de la ville de Marseille sont gérées de façon très rigoureuse. Après, savoir s'il fallait investir dans un sens ou dans un autre...
Alors le palais de il y a des investissements donc qui sont très critiqués dans cette campagne qui démarre, le palais de la glisse, le stade Vélodrome, sa rénovation.
Le stade Vélodrome, après on parlera du palais de la glace, mais le stade Vélodrome, c'est curieux que Patrick Menucci critique cet investissement.
Attendez, qu'on mette les choses bien à plat. Enfin, je veux dire, Au-delà de Patrick Mellucci, il y a également eu un rapport de la Chambre régionale des comptes qui, elle aussi, pointe certains investissements.
Oui, alors je vais répondre à la fois à Patrick Mellucci et à la Chambre régionale des comptes, mais si vous ne me laissez pas le temps de répondre, je ne réponds rien
pas,
du tout.
C'est vous qui faites le débat,
non, sans
mais
moi.
Voilà, non. Mais Yves Morel, ce n'est pas seulement des arguments de candidat contre candidat. Il y a une instance objective qui regarde les comptes et qui a pointé certains dysfonctionnements.
Allons-y, Patrick Mellucci, puis la Chambre régionale des comptes. Alors, Patrick Mellucci critique le Stade Vélodrome, c'est un peu curieux, parce qu'il était directeur de campagne de Jean-Noël Guérini en 2008, qui proposait lui aussi la couverture du Stade Vélodrome. Quant à la Chambre régionale des comptes, elle critique le choix du partenariat public-privé avec Bouygues, ce qui est un peu curieux, parce que l'État lui-même, pour enfin nous finir la L2, a choisi quoi ? Le partenariat public-privé et avec qui ? Bouygues. Alors Godin n'aurait pas le droit de faire ce que Hollande fait, c'est une critique un peu curieuse.
267 millions, ça c'est le prix du stade.
Oui.
Une ville surendettée, comme on l'a dit, 1,8 milliard d'euros d'endettement. Il n'y avait pas des choses un petit peu plus cohérente et urgente à faire ?
C'est le choix, il était simple. C'était un choix d'ailleurs qui ne concernait pas que Marseille. Soit on refaisait le stade et on avait l'euro 2016 en France et à Marseille, soit on ne le refaisait pas et on ne l'avait pas. Nous avons considéré qu'il valait mieux le faire parce qu'on se souvient que la Coupe du Monde 1998 a servi de formidable booster pour le développement économique et touristique de Marseille. Mais on l'a fait dans le cadre d'un partenariat public-privé justement pour que ça pèse moins sur les finances de la ville.
Donc 267 millions pour un pari éventuellement, un pari, celui de l'euro et de l'image de Marseille pour les touristes, c'est ça ?
Oui,
ça fait beaucoup.
Pour l'euro, pour le tourisme, pour les supporters de l'Olympique de Marseille, parce que la deuxième ville de France doit avoir un stade à la hauteur de ce qu'elle représente en Europe.
Alors justement,
et d'autres choses.
Justement, ce stade, on a l'impression que c'est un petit peu la vache sacrée de Jean-Claude Gaudin. On ne touche pas au Stade Vélodrome. Le candidat socialiste Patrick Mellucci, lui, pourquoi pas ? Après tout, qu'un stade soit privé, c'est pas non plus scandaleux, non ?
Jean-Claude Gaudin a expliqué très clairement son choix. Il a dit « Moi, je ne veux pas vendre le Stade Vélodrome parce qu'il y a un certain nombre de symboles dans cette ville qui appartiennent à tous les Marseillais et qui doivent rester la propriété, le bien commun de tous les Marseillais. Je ne vends pas le Stade Vélodrome, je ne vends pas le Palais du Faro, pourquoi pas vendre Notre-Dame de la Garde aussi. »
Il l'a fait pour l'Hôtel Dieu ?
L'Hôtel Dieu, il l'a fait. D'ailleurs, les socialistes...
Et c'était très bien.
Oui, mais à l'époque, M. Mellucci disait « Vous vendez l'âme de Marseille quand on a vendu l'Hôtel Dieu. » Et maintenant, il dit « Vous pouvez bazarder le Stade Vélodrome. Comme ça, c'est un émir qatari qui va l'acheter et qui fera des loges et tout le monde sera content. »
C'est
pas sérieux.
C'est la qui vous gêne ou c'est l'émir
Non, c'est l'émir qatari qui ensuite pourrait faire du Stade Vélodrome tout autre chose que ce à quoi il est consacré depuis un siècle, c'est-à-dire à l'Olympique de Marseille.
Michel.
Alors,
Encore que qatari, ça me gêne un peu parce que c'est le Paris Saint-Germain, mais ça n'a rien à voir avec la nationalité.
Autre slogan de campagne, le programme de Jean-Claude Gaudin, c'est son bilan.
Pardon, j'ai pas...
Tu dis c'est un autre...
Je souriais avec votre collègue et donc j'étais pas attentif à vous, je m'en reprends immédiatement.
Un autre slogan de campagne, c'est que le programme de Jean-Claude Gaudin, c'est son bilan. Vous répondez quoi à ce genre d'affirmation ?
Ben oui, je dis la même chose que Patrick Mellucci, mais certainement pas avec les mêmes arrière-pensées. C'est-à-dire que nous considérons que la ville de Marseille va beaucoup mieux aujourd'hui qu'en 1995. Sur quoi vous jugez une ville ? Savoir si le chômage a baissé, il a baissé. Savoir si la croissance démographique a repris, elle a repris, je vais y venir.
Yves Morel.
Savoir si le développement économique est là, oui. Savoir si on a amélioré les quartiers, oui. On n'y avait plus rien entre l'hôtel de ville et la tour CMA-CGM. On a recréé des entreprises, des logements, de la culture, la vie. Marseille n'avait jamais organisé un grand événement international avant 1995. On en a organisé une dizaine en 18 ans. Voilà. Donc l'immobilisme, il n'est pas du côté de Jean-Claude Gaudin. Il est du côté de ceux qui critiquent toujours sans jamais rien proposer parce qu'en fait, ils ne pensent qu'à eux.
Quand vous dites le chômage a baissé, il faut peut-être voir ça de manière
un peu plus... Je vous donne les références. Je vous donne les références.
Yves Morin.
Laissez-moi donner les chiffres.
Alors allez-y, donnez les chiffres.
Pour être précis, parce que ça va être une discussion qu'on va avoir avec nos adversaires. Il n'existe pas de statistiques du chômage sur Marseille. Il existe des statistiques INSEE du chômage sur le bassin d'emploi Marseille-Aubagne. En 95, c'est 23%. Aujourd'hui, c'est 13,5%. Donc, ça a baissé de 9,5 points. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est la comparaison avec le national. Parce que quand on est à 23 à Marseille en 95, en France, on est à 9,5. Marseille a 15 points de retard sur la moyenne nationale. Aujourd'hui, on est à 13,5 à Marseille. Comme malheureusement, les socialistes le font exploser au niveau national, ils sont à 11,5. On n'a plus que 2 points de retard. On a rattrapé le retard de Marseille. Et ça, c'est pas contestable.
Alors, les auditeurs feront le tri et puis ils prendront leur calculette.
Non, mais il faut bien que je donne mes chiffres quand même.
Je donne aux auditeurs les autres chiffres qui circulent. Donc, 60 000 chômeurs à Marseille en 95 et aujourd'hui, 82 500 et quelques.
Mais vous ne donnez pas les références. Moi, je donne les références statistiques INSEE, bassin d'emploi, Marseille, Aubagne. Vous, les références, c'est quoi? C'est Patrick Menucci?
C'est les chiffres que Patrick Menucci communique aux journalistes.
Oui, mais il
ne
donne
matin.
Pas ses références.
Non, mais de toute manière, pourquoi vous prenez référence 95? C'est le troisième, ça va être le quatrième mandat.
C'est l'élection de Jean-Claude Godin.
Oui, mais ça va être le quatrième mandat. Ben
non, mais on fait un bilan, donc je fais le bilan depuis le début.
D'accord, mais enfin, on aura.
Je peux vous donner notre référence.
Vous pourriez prendre 2008, par exemple.
Ah, mais je ne connais pas le chiffre. Je connais pas le chiffre de 2008, mais je veux bien qu'on parle de 2008. Moi, je prends la totalité de la période, mais je veux bien qu'on la saucissonne, si ça vous fait plaisir. Je peux aussi donner un autre exemple. Quand M. Menucci et les socialistes étaient au pouvoir à Marseille, entre 75 et 95, Marseille avait perdu un emploi sur 4 et un habitant sur 6. Nous avons fait beaucoup mieux.
Vous n'avez pas peur que ça vous que prendre toujours cette référence de 95, ça vous retombe dessus, parce que 95, tout de suite, 2013, ça fait très long quand même.
Ben je prends le risque.
Vous prenez le risque?
Voilà.
Sur le chômage et les chiffres,
et j'ai peur de
quand
rien.
On vous écoute, on a l'impression que Marseille ferait presque rêver d'autres villes. La réalité
mais bien
est
sûr
la,
que Marseille
la
fait rêver. Si on lit la presse étrangère, Marseille fait rêver. Si on écoute Patrick Menucci, évidemment, on a envie de se suicider.
La constante depuis 1995.
Mais il ne gagnera pas sur le dos de Marseille.
Yves Morin,
oui.
Le temps passe.
Pardon,
on a beaucoup de questions à vous poser. La constance, la constance depuis 1995, ce sont quand même la fracture dans cette ville entre les quartiers nord et les quartiers sud. 40% de chômage.
Mais c'est pas depuis 1995, pardon, je me parle plus.
Jean-Claude Gaudin dit « N'exagérons pas cette fracture sociale ». Quand même, un petit peu, puisqu'elle est il résulte de cette fracture sociale, tout ce qui se passe aujourd'hui, notamment
Mais qui
le trafic de drogue, le trafic, le commerce informel, les assassinats, il y a beaucoup de choses.
Vous me dites quand je peux parler.
Allez-y.
Non. Qui a créé la fracture nord-sud dans cette ville? Qui a créé des cités HLM pourries, avec des logements par dizaines de milliers, pour se faire une clientèle électorale? Qui est au pouvoir depuis des années, en fait depuis toujours, dans les quartiers nord de Marseille et n'a jamais rien fait pour les quartiers nord de Marseille? Qui a refusé au Parti communiste à l'époque le plan de rattrapage des quartiers nord qui était exigé par un homme admirable, même s'il était communiste, qui était Guy Hermier? Eh bien, ce sont les socialistes. Et qu'est-ce que nous avons fait, nous, depuis 1995, sans jamais espérer gagner les élections dans les quartiers nord? Eh bien, nous avons créé deux zones franches. Nous avons créé Euroméditerranée. Nous avons rendu l'accès à la mer avec l'espace Mistral. Et nous allons continuer avec l'Arena et avec plein d'autres choses. Voilà ce que nous avons fait. C'est pas nous qui avons créé la fracture nord-sud, c'est ceux qui ont créé ces cités HLM. Ça a été fait dans d'autres villes de France parce qu'il fallait construire vite. Ça mériterait d'être un peu affiné, mais il faut aller vite. Mais c'est pas Godin qui a créé la fracture nord-sud dans cette ville. Au contraire, il a tout fait pour essayer de l'estomper.
Alors, Michel, mettons.
Mettons pas, c'est mon avis.
Il n'empêche, elle existe. On en parle, et vous reconnaissez vous-même que cette fracture existe au bout de 18 ans, même si les causes remontent peut-être à plus loin et sont partagées. Comment faire pour la réduire,
eh bien,
cette fracture?
Il faut continuer là où...
Elle s'accentue plutôt.
Non, elle s'accentue,
c'est l'impression
pas.
Qu'ont les Marseillais.
Non, mais elle s'accentue pas parce que quand vous créez deux zones franches qui permettent d'avoir des entreprises et de l'emploi là où il n'y avait rien, vous réduisez la fracture. C'est quoi le problème de ce qu'on appelle les quartiers nord, nous qui sommes Marseillais, on sait que c'est idiot d'abord de dire les quartiers nord. Parce qu'il y a dans les quartiers nord des poches, des endroits, des quartiers où on vit parfaitement bien, d'accord? Dans les quartiers de Saint-André, de l'Estac.
Les noyaux villageois sont quand même au nord.
Oui,
hein.
Mais la stigmatisation globale des quartiers nord, c'est une très mauvaise chose parce que ça recouvre des réalités très différentes. Ce qui pose problème, c'est un certain nombre de cités gangrénées par le trafic de drogue auquel l'État, qu'il soit de droite hier ou de gauche aujourd'hui, ne s'est jamais véritablement attaqué, parce que pour faire exploser, pour faire disparaître ce trafic de stupéfiants qui gangrène les cités de Marseille d'ailleurs, il faudrait d'abord prendre aux pays producteurs, un certain nombre de pays producteurs que tout le monde connaît. Il faudrait ensuite s'en prendre aux transporteurs pour les empêcher de venir déverser leur merde dans les cités des quartiers nord, et de Marseille et d'ailleurs. Et ensuite, il faudrait mener un véritable combat contre les trafiquants sur le plan local. Voilà, c'est de ça dont souffrent les cités, certaines cités des quartiers nord de Marseille. Mais il y a plein de choses très bien qui se font dans les quartiers nord de Marseille. Il y a plein d'endroits des quartiers nord de Marseille où on vit très bien.
Alors, sur le dossier de la fracture sociale comme sur le dossier de la sécurité, le problème de l'élu sortant, c'est d'expliquer que le mandat suivant va être mieux que le précédent. Or, quand on a déjà fait trois mandats, objectivement, vous allez être le porte-parole du candidat Jean-Claude Coudin en campagne, la difficulté, ça va être de faire comprendre aux Marseillais qu'il va y avoir vraiment du nouveau et que les lignes vont bouger, parce que la situation que vous décrivez semble quand même très figée et très difficile, en tout cas, à faire évoluer en termes de fracture sociale à Marseille, avec le nord et le sud, et en termes de sécurité, pour prendre un deuxième dossier brûlant et très souvent commenté, de sécurité.
Et vous savez, moi, je ne crois pas que les Marseillais ou les électeurs en général soient des gogos ou des babaou. Hein. Je ne crois pas qu'on va leur dire, voilà, la baguette magique, on va changer les choses et tout va être formidable demain. Ça ne marche pas comme ça. Moi, je crois qu'on peut tout à fait expliquer aux électeurs marseillais que nous avons fait un certain nombre de choses pour améliorer la situation dans les quartiers nord de Marseille et pas que dans les quartiers nord de Marseille.
Et qu'en termes de sécurité, vous allez
leur expliquer aussi ? Expliquer en termes
vous
de sécurité,
quoi,
des choses très simples. Je vais leur expliquer qu'en 1995, il y avait 50 policiers municipaux, qu'aujourd'hui, il y en a 400. Que c'est donc nous...
Non, n'allez pas si vite. Il y en a 400 parce qu'il y a eu une grosse pression, Yves Morenne.
Oui, mais je vous ai...
La police municipale n'a jamais été la préoccupation de Jean-Claude Gaudin.
Non, d'ailleurs, ça, c'est votre traduction
d'ailleurs,
à vous.
D'ailleurs, la vidéosurveillance, l'évolution des mentalités de Jean-Claude Gaudin est à l'échelle géologique quasiment. C'est en 2011 seulement qu'elle a été installée. Voilà, ouais. Les choses ne se prennent pas facilement. Jean-Claude Gaudin n'est pas quelqu'un qui voit un petit peu les choses et qui prend des décisions rapides, on va dire.
Mais je sais pas, vous savez, les décisions rapides, elles peuvent être stupides. Donc parfois, il vaut mieux les mûrir. Regardez, quand on parle trop vite, on fait parfois de grosses bourdes, comme faire Patrick Mennucci avec Samia Ghali. Donc,
troisième mandat, 400 policiers municipaux à peine.
Oui.
Ils sont même pas encore entrés en fonction.
Mais je rappelle, en 95, 50 policiers municipaux. Aujourd'hui, 400. La vidéoprotection, c'est Jean-Claude Gaudin qui a exigé qu'on ait la vidéoprotection dans cette ville. Et je me souviens quand
2011.
Nous avons eu les premiers débat sur la vidéoprotection, qu'un certain nombre de gens qui font aujourd'hui campagne avec M. Patrick Mennucci étaient très, très, très réservés sur la vidéoprotection. Alors aujourd'hui, tout le monde dit c'est très bien qu'il y ait la vidéoprotection.
Pas tout le monde.
Non, pas tout le monde. Un certain nombre de gens disent aujourd'hui que la vidéoprotection, c'est très bien, mais c'est grâce à Gaudin qu'on l'a. Et quand vous lancez un plan de vidéoprotection aussi important que celui-là, compte tenu des coûts financiers, il vaut mieux s'assurer que tout le monde paie. Voilà. Pas comme pour le stade Vélodrome où l'État nous doit 30 millions qu'il ne nous donne toujours pas. Si M. Mennucci peut faire quelque chose, d'ailleurs, ça serait bien.
Il y a aussi des syndicats de policiers qui disent que des caméras, s'il n'y a pas d'effectifs pour ensuite quadriller la ville, ça ne sert pas à grand-chose.
Ah oui, mais ça, M. Valls a dit qu'il allait nous envoyer plein d'effectifs. Donc ça aussi, M. Mennucci va s'en occuper.
Alors, fracture toujours, ça fait partie de ce que vous avez qualifié le Marseille bashing. On parle souvent de ces cités, vous les avez évoquées vous-même, qui sont soumises à la drogue, etc. Le manque de mixité sociale et la construction quasi exclusive d'HLM dans les quartiers nord, c'est pas un problème ça ?
D'abord, les cités HLM dans les quartiers nord, c'est pas Gaudin qui les a construites.
D'accord. Mais Gaudin a la responsabilité. Parce que vous pouvez me sortir ça à chaque fois qu'on dit quelque chose.
Mais
depuis 1995, Gaudin a la ville en responsabilité.
Oui, mais qu'est-ce qu'il fallait faire ? Détruire ?
Bon. Alors, non, mais construire dans le sud, par exemple.
Alors attendez, avant de construire dans le sud. On va expliquer ce qui s'est passé dans les quartiers nord. D'accord ? Les cités HLM des quartiers nord, elles ont été construites par les socialistes pour se faire une clientèle électorale. Point 1. Point 2. Depuis 1995, il y a un certain nombre de programmes privés d'accession à la propriété qui existent dans les quartiers nord, ce qui crée de la mixité sociale. Parce qu'on peut dire il faut mettre du logement social partout. On peut aussi dire on peut mettre des logements en accession libre partout. Et c'est ce qui se passe dans les quartiers nord. On en a vu à l'Estac, on en a vu dans le 13e arrondissement, on en a vu dans le 14e arrondissement. Quant au logements sociaux dans les quartiers sud, nous en avons créé alors qu'il n'en existait aucun. Simplement, il faut le temps de trouver le foncier pour arriver à le développer et il faut le faire par petites opérations pour ne pas se retrouver avec les mêmes problèmes que nous avons dans les cités des quartiers nord. Et je vais vous prendre un exemple que je connais bien maintenant en tant que maire des 6e et 8e arrondissements. Quand nous décidons sur la rue Michel-Lévy de transformer un jardin en créant 300 places de stationnement et 46 logements, dont 23 logements sociaux, ben nous avons toute la gauche qui nous tire dessus en disant « Mais c'est honteux, vous faites disparaître un jardin. » Et en réalité, ils font ça parce que les habitants autour ne veulent pas de logements sociaux. Eh bien, nous l'imposons quand même et en plus, nous recréons le jardin. Michel. Comme ça, tout le monde est content. Enfin, tout sauf ceux qui font de la politique.
Autre point qui va être débattu dans la campagne et qui l'est à plusieurs niveaux, c'est la question de la gouvernance. Et là, on parlait tout à l'heure de la Chambre régionale des comptes qui pointait des questions de gestion, mais aussi des questions de gouvernance, en particulier au niveau du personnel municipal. Il faut se souvenir que la mairie et MPM est un des premiers employeurs à Marseille, en pointant le fait que la durée légale annuelle de travail pour les agents de la fonction publique est de 1607 heures et qu'à Marseille, il est de 1567 heures. Et là, bon, le maire a répondu que c'était un petit peu, finalement, j'interprète, hein, un usage à Marseille qui datait des années de fer et que pour conserver la paix sociale, il fallait finalement acter cette chose-là.
Ben là aussi, on peut dire la vérité ou mentir. Hein.
Allons-y,
on peut dire non, on va arrêter ça. où on peut dire la vérité, c'est un héritage du passé, qui est peut-être anormal, mais c'est un héritage du passé. Si on dit aux agents, il va falloir que vous travaillez, je ne sais pas combien ça fait, 50 heures de plus, vous avez des grèves infernales, les gosses qui ne peuvent plus aller à la cantine, les ordures qui ne sont plus ramassées, etc., etc. Et nous n'avons pas voulu de cela. Donc, on va voir ce que M. Mennucci propose.
En définitive, Yves Morin, vous donnez raison à Patrick Mennucci quand il dit que que la ville est en co-gestion avec les syndicats.
Mais ça, ça n'a rien à voir avec les syndicats.
Les gens qui se mettent en grève, on va parler clair et direct. Il y a un syndicat, Force Ouvrière Territoriale.
Mais vous croyez que si on les fait travailler 50 heures de plus, il n'y a que les gens qui ont la carte FO qui vont se mettre en grève? Ils vont tous se mettre en grève.
Aucun d'entre eux ne veut travailler. Force Ouvrière Territoriale qui est en capacité de bloquer les choses.
Mais aucun d'entre eux ne veut travailler 50 heures de plus. Il n'y a pas un seul des 11 500 employés municipaux qui veut travailler 50 heures de plus pour le même salaire. On leur a expliqué avec les socialistes qu'ils pouvaient avoir le même salaire en travaillant 4 heures de moins. Pourquoi vous voudriez qu'ils travaillent 50 heures de plus pour le même salaire?
Donc c'est effectif, il y a une espèce de co-gestion.
Mais non, ce n'est pas une co-gestion. Ça se passe également sur le fini-parti,
Yves Morin.
Alors, vous voulez qu'on parle du fini-parti?
S'il vous plaît.
Alors d'abord, les socialistes en 2008 avaient dit qu'ils supprimeraient le fini-parti. M. Mennucci était directeur de campagne de M. Guérini, il était vice-président de la communauté urbaine et il n'a pas supprimé le fini-parti. Point numéro 1.
Est-ce que vous allez le supprimer si vous gagnez ces élections?
En tout cas, il faut supprimer le fini-parti pour les agents de maîtrise. Et c'est ce que nous avions proposé dans la commission des quatre mousquetaires, avec Martine Vassal, Patrick Mennucci et Sylvie Andrieux, où nous avions dit qu'il faut supprimer le fini-parti pour les agents de maîtrise parce qu'il est stupide. Évidemment que les agents de maîtrise qui sont censés contrôler le travail qui a été fait par les agents d'exécution partent en même temps et ne peuvent évidemment rien contrôler. Ensuite, la suppression du fini-parti, c'est quelque chose qui peut s'envisager. J'ai une meilleure idée. Moi, mon idée, c'est pas de supprimer le fini-parti, parce qu'en réalité, le fini-parti, il s'applique pour tout le monde, dans le privé et dans le public, pour ce métier des éboueurs, des agents de benne. Parce que quand vous avez fini votre tournée, vous pouvez pas faire autre chose. En réalité, ce qu'il faudrait faire, c'est petit 1, allonger les tournées pour que le travail soit plus long et qu'on puisse dégager du personnel pour faire d'autres boulots, par exemple pour nettoyer, pour balayer, petit 1. Et petit 2, et surtout, contrôler plus efficacement le travail des éboueurs et leur faire refaire quand il n'est pas suffisamment bien fait.
En tout cas, ce que vous nous dites, c'est qu'il va y avoir un nouveau dialogue, une relation différente avec le syndicat FO, qui est le syndicat principal.
Non, mais bon, moi, j'en peux chaque fois reprendre le fantasme, etc. Le patron dans le public et dans le privé, oui. il dialogue avec le syndicat qui gagne les élections. Il se trouve que c'est FO qui a toujours gagné les élections dans cette ville. C'est pas Godin qui a installé FO, c'est Gaston Defer. Et donc, on dialogue avec FO. Mais croyez-moi, les frictions entre Godin, entre le maire et FO, elles sont nombreuses et récurrentes. Mmh. Il n'y a pas de co-gestion. Chacun défend ses intérêts. Voilà. Le patron dirige et le syndicat défend les intérêts des salariés.
Le fait que le maire de Marseille est régulièrement au congrès des FO, ça c'est une chose normale?
Je ne vois pas en quoi c'est choquant. D'ailleurs, il n'y a pas que le maire de Marseille, l'ensemble des élus viennent au congrès de Force Ouvrière. Voilà.
Michel,
ouais. C'est pas normal non plus que les autres syndicats appellent à voter pour le candidat de gauche. Voilà. En matière d'indépendance syndicale, il me semble qu'FO n'a jamais appelé à voter pour Jean-Claude Gaudin, alors que la CGT, le FSU et autres appellent toujours à voter pour le candidat de gauche.
Michel,
est-ce que le passé peut finir par passer à Marseille? On va dans cette campagne.
Vous pouvez la refaire là. Est-ce que le passé peut finir par passer à Marseille?
Oui, il faut que je me concentre
là pour répondre à cette question. Hein.
Bon, je pense que vous pouvez y arriver. Je vous fais confiance.
Alors, est-ce que le passé peut finir par passer à Marseille?
Parce qu'on pointe là depuis une demi-heure un certain nombre de dossiers qui étaient déjà dans la campagne en 2008, qui remontent, comme vous venez de nous l'expliquer, parfois aux années Defer, et tout le monde se réfère toujours à Defer. Excusez-moi, je fais encore un jeu de mots.
Est-ce qu'on peut parler d'autre chose?
Est-ce qu'il est possible de parler d'autre chose et de projeter Marseille dans le futur? Oui. et de changer des mécanismes comme ça qui sont très profondément inscrits dans cette ville.
La campagne, elle aura ses petites turpitudes, ses petites guéguerres, mais il faut que chacun donne ses solutions pour faire de Marseille, à l'horizon 2030, la ville la plus attirante d'Europe. Et contrairement à ce que disent nos adversaires ou certains médias nationaux, on n'en est pas si loin. Marseille est sur le chemin de la réussite. Oui, il y a des problèmes. On ne transformera jamais Marseille en Bordeaux ou Lyon. Marseille est une ville-port. Marseille est une ville-frontière, ce qui implique structurellement un certain nombre de difficultés. Mais Marseille est en train de réussir. Marseille doit avoir pour ambition d'attirer tous les créateurs dans tous les domaines, tous les investisseurs, investisseurs dans tous les domaines, tous les entrepreneurs. Et quand vous voyez un certain nombre d'investisseurs qui n'ont pas pour habitude de jeter l'argent par les fenêtres, qui viennent à Marseille investir 300, 400 millions d'argent privé et créer les emplois qui vont avec, c'est bon signe. Et c'est cette dynamique qu'il ne faut pas briser. Et je ne crois pas que M. Mennucci, qui est le candidat de M. Hérault, qui fait fuir les entrepreneurs de France, soit le mieux placé pour attirer les investisseurs.
En même temps, M. Hérault, Premier ministre, arrive à Marseille, il n'arrive pas les mains vides avec différentes propositions, notamment un certain nombre de milliards. Vous trouvez, vous dites finalement, c'est bien.
Ben moi, je préfère.
Une bonne chose pour Marseille.
Non, mais tout ce qui vient à Marseille, c'est une bonne chose. Tous les investissements qui viennent à Marseille, c'est une bonne chose. Et si Hérault vient avec des milliards, tant mieux. Et on prendra les milliards et on battra quand même Mennucci. C'est pas un souci. Le problème des milliards qu'ils nous annoncent, c'est que c'est des milliards à 20 ans. Nous, on préfère les milliards demain. Par exemple, plutôt que de nous dire qu'on va refaire une gare à 2 milliards alors qu'on vient à peine de la terminer, il aurait mieux fait de nous donner les sous pour faire immédiatement le boulevard urbain sud qui peut démarrer demain parce que tout est prêt. Ou de faire le métro jusqu'à Saint-Loup, par exemple. Deux exemples. Et de nous donner les 30 millions d'euros qu'il nous doit sur le stade Vélodrome parce que c'est la ville qui préfinance pour l'État.
Yves Morin, une campagne qui va être axée sur quel thème fort pour vous ?
Poursuivre le développement économique de Marseille. Parce que Marseille, encore une fois, doit faire face à un certain nombre de handicaps structurels. Marseille, qui est une ville port, une ville d'immigration, une ville frontière, doit absorber les pauvretés qui viennent s'échouer à Marseille. Et elle ne peut le faire que par le développement économique. Et comme on ne recréera pas ici les huileries, les savonneries, les aciéries, eh bien, il nous faut trouver d'autres voies pour le développement économique autour du tourisme, autour de la culture en particulier.
Un dernier mot très, très rapidement pour la SNCM. Elle est encore mise en difficulté. On réclame, l'Union européenne réclame le remboursement de 220 millions d'euros. Qu'est-ce que vous dites au gouvernement ? Dépêchez-vous,
renationaliser. Je ne vais pas faire de politique politicienne, je dis simplement union sacrée pour sauver les emplois de la SNCM.
Ça ne sera pas un des thèmes de la campagne, la SNCM et les emplois ?
Si l'État veut jouer main dans la main avec la ville de Marseille pour sauver les emplois, ça ne sera pas un des thèmes de la campagne. Si l'État ne prend pas ses responsabilités, ce sera un des thèmes de la campagne.
Yves Morin, je vous remercie et puis je vous dis à très très bientôt.
Merci à vous, merci beaucoup.
La grande tchatche.